Laetitia Colombani, bonjour. Très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de votre film La Tresse, qui sort en salle le 29 novembre. Alors, La Tresse, c'était d'abord un livre sorti chez Grasset en 2017, dont vous étiez d'ailleurs aussi l'autrice. Je me suis demandé au moment de votre écriture, est-ce que vous aviez déjà des images en tête? Est-ce que vous aviez envisagé, dès ce stade, une adaptation au cinéma?
Non, j'envisageais pas du tout une adaptation. J'étais scénariste et réalisatrice avant d'être écrivain, mais pour autant, j'avais en tête cette histoire qui se passait sur trois continents et je m'étais dit, de toute façon, sous forme de scénario, ce serait un projet beaucoup trop ambitieux, trop coûteux, trop cher à monter, trop compliqué à mettre en œuvre. Et j'ai envie d'écrire en toute liberté, sans me demander si c'est faisable ou pas, si ça coûte cher ou pas. Et donc, j'ai vraiment voulu écrire ce roman en me disant « ça ne pourrait pas être un film de toute manière, le roman m'offrira plus de liberté ».
Et finalement, quand vous vous êtes décidé à l'adapter, est-ce que dès le départ, vous étiez dit « ce sera pour moi, je veux me consacrer à la réalisation ». J'en parlais il y a quelques jours avec votre producteur André Logis, et je disais que finalement, vous étiez un petit peu la Stallone au féminin avec son Rocky qui tient absolument à vouloir monter son film.
En fait, non, ça n'a pas été une évidence quand le roman est sorti. Donc, des producteurs m'ont contacté pour acquérir les droits d'adaptation et ils m'ont dit, mais tu es scénariste et réalisatrice, est-ce que tu veux le faire? Et j'ai pas su répondre. Je leur ai demandé un délai de réflexion. Parce que je ne m'attendais pas à être contactée par des producteurs et parce que l'ampleur du projet m'effrayait. Je me suis demandé si je serais à la hauteur. Moi, j'avais réalisé deux longs métrages, mais en France, en français.
Il n'y a pas des moindres quand même, hein, quand on pense quand même avec le casting de Mester et moi, il faut quand même digérer tout ça.
Oui, mais c'était Mester et moi et À la folie, pas du tout. C'était des projets en France, en français. Et là, je me suis dit, mais est-ce que je serais capable d'aller sur trois continents différents, diriger des équipes internationales et puis diriger des comédiens dans une langue que je ne parle pas? Est-ce que... voilà, et puis j'avais pas tourné depuis très longtemps, donc je n'avais pas beaucoup confiance en moi et j'ai demandé un délai de réflexion. Et puis je me suis dit, mais si quelqu'un d'autre le réalise, est-ce que je suis sûre que le film sera fidèle au livre? Est-ce que je ne vais pas être déçue? Est-ce que je ne vais pas me sentir trahie? Et c'est ce qui m'a décidé finalement, malgré la peur, à me lancer dans cette aventure.
Alors, partir de son propre bouquin pour écrire un scénario, est-ce que la phase la plus pénible, ce n'est pas quand on doit couper dans son propre texte?
En fait, j'ai pu travailler sur l'adaptation donc du scénario avec Sarah Kaminski, qui est ma complice d'écriture. Ce regard m'a beaucoup aidée.
Qui était déjà dans les montagnes russes aussi.
Oui, absolument. Sarah, c'est une amie très proche et j'ai une confiance absolue en son jugement. Et là, je lui avais dit, c'est moi qui vais écrire, je vais tenir la plume, mais j'ai besoin de toi à chaque étape parce que... il va falloir que tu m'aides à prendre des libertés aussi par rapport au roman. Sarah, elle a un œil neuf, c'est quelqu'un d'extrêmement fin, très intelligent. Et on a travaillé comme ça en séance de ping-pong, où elle lisait toutes les versions. Et elle m'a permis, je pense, d'aller plus loin dans la narration. Je pense que le scénario, en termes narratifs, est plus abouti que le roman. On a eu plus de temps aussi... Pour réfléchir aux enjeux des personnages, et notamment la partie italienne, elle a été beaucoup retravaillée par rapport au roman. Donc j'ai vécu ça comme une chance de revenir sur mon propre travail, de l'approfondir et de l'améliorer, si je peux dire.
Alors, au générique, au début, vous dites qu'il ne s'agit pas d'une pure fiction. Toute ressemblance ne serait que le produit du hasard. Mais je me dis quand même, vous qui allez quand même régulièrement en Inde, qui avez eu l'occasion de côtoyer tous ces gens et ces classes. Et puis, il y a quand même aussi l'épisode de la visite chez le perruquier avec votre ami qui a le cancer. La fiction, elle est quand même imprégnée d'une certaine réalité.
Bien sûr, moi, je suis inspirée par des personnes que je rencontre, par des situations que je vis. L'inspiration... elle prend sa source un peu partout. Et c'est vrai que ce sont des personnages de fiction. ce sont des situations que j'ai créées, mais qui s'appuient sur des choses que j'ai vécues, bien sûr. Et c'est avec cette amie, Olivia, à qui j'ai dédié le livre et le film. C'est une amie que je vois depuis des années se battre contre le cancer. Elle m'a servi, quelque part, à développer la partie canadienne, la partie sur l'avocate, Sarah Cohen. J'ai une amie en Inde qui m'a beaucoup parlé de ce que vivaient les femmes au quotidien, et en particulier les femmes intouchables. Bien sûr, tout ça est venu enrichir mon récit. Et d'ailleurs, je fais toujours, avant de commencer à écrire, une enquête journalistique sur le terrain, et je vais rencontrer des gens, je leur demande de me parler, de me raconter leur vie. J'ai passé du temps, soit en Inde, en Italie ou au Canada, j'ai passé du temps à faire ces recherches parce que j'ai toujours un souci de réalisme. Je veux que les gens puissent s'identifier à mes personnages et que ce soit juste, ne pas raconter de choses fausses, notamment par rapport au statut social de ces personnes.
Il y a tout le quotidien quand
et
même
au
qu'il
quotidien
faut respecter.
Oui, au quotidien. Et j'avais un vrai souci de réalisme jusque dans la réalisation du film, où j'ai passé du temps dans le village où nous avons tourné, qui est un village intouchable, avec les intouchables. Je voulais qu'ils me montrent comment ils vont chercher de l'eau au puits, comment est-ce qu'ils font à manger, comment est-ce qu'ils se lavent, comment est-ce qu'ils s'habillent, etc. Et tous ces détails, pour moi, ils sont fondamentaux, parce que c'est ça le réalisme aussi, être vrai. Et tout est
et le lecteur, comme le spectateur, c'est vrai, est attentif, et de plus en plus, me semble-t-il, avec le développement de l'information, des réseaux, etc., pour aller justement chercher la faille, peut-être, ou que vous avez, pour laquelle vous battre, finalement, pour avoir ce réalisme.
Oui, mais vous savez, ce souci de réalisme, je l'ai toujours eu. Quand j'ai fait mon premier film, À la folie, pas du tout, quand je l'ai écrit, le film part de l'érotomanie, donc d'une maladie psychique. J'ai passé énormément de temps avec des psychiatres, dans des hôpitaux psychiatriques, à rencontrer des patientes. J'avais fait déjà ce travail préliminaire qui me passionne, et j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de me retrouver dans des endroits où ma vie habituelle ne m'aurait jamais emmenée. Et ça, c'est une chance. J'apprends, je découvre. Je suis quelqu'un de plutôt très curieux dans la vie, et ça me permet de m'immerger dans des réalités que je ne connaissais pas.
Alors, il y a trois lieux qui sont types, et à savoir Niamatabad, dans le nord de l'Inde, il y a Monopoly pour le sud de l'Italie et Montréal pour le Canada. Pourquoi ces trois endroits? Est-ce qu'ils représentent quelque chose pour vous en particulier? Comment les avez-vous choisis?
L'Inde, pour moi, c'était évident par rapport au sujet du film, que la première partie se passerait en Inde. Ensuite, j'ai cherché un village dans le nord de l'Inde. Donc, j'ai fait beaucoup de repérages en Uttar Pradesh. Et ce village-là, en particulier, Niyamatabad, il a été pour moi une évidence, parce que c'est un village qui vit quasiment en autarcie, qui est très coupé du monde, qui est peuplé par une population d'intouchables, une communauté intouchable, que je tenais absolument à les avoir à l'écran. Donc les gens ont bien voulu participer au film en tant que comédiens, mais ils nous ont aussi beaucoup aidés sur le plan technique. Ils vivent dans des cahutes en boue séchée, ça c'est quelque chose visuellement que je trouvais très intéressant pour le personnage de Smita, qui ramasse les excréments, qui a les pieds nus dans la terre, etc. C'est quelqu'un de très, très terrien. Donc ça a été une évidence quand j'ai visité ce village en particulier, qui est à une trentaine de kilomètres de Varanasi. Je me suis dit, c'est là. Il y a aussi le rapport avec la nature, parce que le village est entouré de champs. Et les gens mènent une existence qui doit être semblable à celle des gens il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. On dirait que le temps s'est arrêté.
Et pour Monopoly?
Pour Monopoly, d'abord, on avait fait des repérages en Sicile, puisque le roman se passe en Sicile. Et pour des raisons de production, on a dû renoncer à tourner à Palerme. On a cherché donc dans le sud de l'Italie, dans la région des Pouilles, une petite ville qui serait en bord de mer. Et l'élément marin...
Les couleurs sont là, quand même.
Les couleurs sont là. Autant la terre, la boue était très présente dans la partie de Smita, autant je voulais que la mer soit omniprésente dans la partie italienne. Et cette petite ville de Monopoly qui donne sur l'Adriatique, c'est un vrai décor de cinéma. On a tout tourné en décor naturel et c'est extrêmement visuel. Et je voulais qu'on soit immergé dans cette ambiance, cette chaleur de l'été méditerranéen, avec cette ville qui a presque des accents grecs par moment, avec ses maisons en blanc, etc. Et j'ai été complètement conquise par cet endroit.
Alors, nous allons suivre donc trois femmes dont la vie et le destin ont basculé en une seconde. Il y en a peut-être une qui, à la limite, on pouvait le supposer, c'est justement Sumita, mais les deux autres, c'est le bouleversement complet de leur existence. Est-ce que vous... C'est effrayable de savoir qu'en une seconde, tout bascule quand même, non ?
Oui, ce sont des personnages qui sont confrontés à des situations extrêmes, à un moment de bascule de leur vie, où elles vont devoir faire des choix extrêmement forts, que ce soit sur le plan personnel, le plan professionnel, le plan familial, par rapport à Julia, par exemple. Et je trouve que finalement, ce sont des personnages qui sont des situations qui sont intéressantes pour les personnages. Les situations de rupture sont toujours intéressantes pour un personnage parce que je crois qu'on se révèle dans l'adversité. Et je pense que de ces trois femmes, aucune d'elles ne s'imaginait si puissante et si courageuse. Et finalement, ce sont des femmes qui sont obligées de se réinventer, qui se trouvent à un carrefour de leur vie et qui sont obligées de faire face, de continuer à avancer. Et j'avais envie de montrer leur courage, j'avais envie de montrer aussi leur résilience par rapport à ce qui leur arrive. Un jour, on m'a dit cette phrase, ce qui compte dans la vie, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais c'est ce que vous en faites. Et je crois que j'avais envie de montrer ces trois femmes qui vont faire quelque chose des drames qui leur arrivent.
Alors, les femmes, mais aussi, ce qui est important, c'est la figure du père. Bien aimant, autoritaire ou même absent, comme pour le Canada, c'était aussi un élément important dans votre film et dans votre ouvrage, non ?
Oui, je crois que l'idée de la transmission, de la filiation, elle est très présente au cœur des trois parties du film. Ce qu'on transmet, ce dont on hérite, ce qu'on transmet et ce qu'on refuse de transmettre. Et finalement, à leur manière, chacune des trois femmes se retrouve à devoir choisir. Est-ce qu'elle va transmettre ? Est-ce que Smita va transmettre son métier de videuse de latrine à sa fille ? Ou est-ce qu'elle va refuser de lui transmettre ça ? Est-ce que Julia va transformer l'atelier de son père ? Ou est-ce qu'elle va abandonner cette activité ? Et est-ce que Sarah Cohen va se laisser mourir du cancer ? Sa mère en est morte aussi. Elle a une fille. Elle a ce fameux gène qu'ont certaines familles. Et qu'est-ce qu'elle va en faire ? Est-ce qu'elle va montrer à sa fille qu'elle est battue d'avance ? Ou est-ce qu'elle va se battre ? Est-ce qu'elle va tout faire pour se battre ? Donc cette question de la filiation, de la transmission, elle est présente à travers le rapport à la mère et aussi, comme vous dites, le rapport au père.
La religion aussi est importante, notamment la mère de Julia qui... est une, entre guillemets, bigote. Il y a aussi en Inde aussi où la religion est importante avec la purification du Gange. C'est aussi un des éléments essentiels de votre ouvrage, non ?
Oui, moi j'avais envie que ces trois femmes, elles soient bien sûr sur trois continents différents, de trois cultures différentes et de trois religions différentes. La religion prend une place plus ou moins importante dans chacune de leurs vies. C'est vrai que Smita, en Inde, est une femme extrêmement croyante. Et cette adoration de Vishnu, cet hommage à Vishnu, il est très important. Il joue un très grand rôle dans l'histoire. Julia, elle vient d'une famille du sud de l'Italie qui est encore très, très marquée par la religion, l'importance du catholicisme. Et c'est vrai que sa mère est très attachée. Elle assiste à la messe tous les dimanches et elle veut que Julia épouse un garçon bien, comme elle dit, c'est-à-dire bien comme elle, c'est-à-dire de la même, du même environnement et puis de la même religion qu'elle. Et Julia choisit quelqu'un d'autre. Elle choisit un étranger qui n'est ni de sa culture ni de sa religion. Et c'est ce qui va aussi, dans l'histoire, provoquer ces scènes de tension dans sa famille.
Alors, il doit y avoir sûrement un gros travail au niveau du montage, parce que ce sont des multiples, puzzles que vous allez reconstituer. Ça doit être un travail fastidieux. Est-ce que vous aviez une sorte de storyboard au préalable ou vous êtes trouvé devant une table de montage en disant « ça y est, il faut y aller
» non, on avait vraiment travaillé au niveau du scénario. On avait accordé beaucoup d'importance à la façon dont les trois histoires s'entrelacent, comme dans le roman, donc le film reprend la structure du livre, les transitions d'un pays à l'autre étaient extrêmement importantes. Donc, au niveau du scénario et du découpage technique,
et du rythme.
J'avais travaillé. Oui. Et c'est vrai que la réussite du film, elle tenait au rythme aussi. Donc, j'avais bien conscience que sur le scénario, j'avais travaillé beaucoup sur cet aspect-là. Mais je savais que le montage est une réécriture et qu'il y aurait évidemment, naturellement, des changements qu'on devrait opérer au montage. Donc, ça a été un travail passionnant de tresser ces trois parties. Il y a certaines des transitions que j'avais anticipées, que j'avais prévues, qui ont été respectées. Il y en a d'autres qu'on a dû modifier. J'ai pu travailler avec Albertine Lastera, qui est une très grande chef monteuse et très inventive, aussi très sensible. Et c'était un travail passionnant. Et moi, c'est une étape que j'aime particulièrement, hein, l'étape du montage. Et je suis là tout le temps et je prends un très très grand plaisir, un grand intérêt à ce travail-là, en particulier pour ce film.
Alors, j'aime bien regarder les remerciements. Et en ce qui vous concerne, vous avez remercié l'accès à Mani Marnika Agathe, parce que c'est vrai que c'est incroyable d'aller pouvoir filmer comme vous l'avez fait. Normalement, on interdit toute photo. Enfin, ça n'a pas été évident, quand même.
Oui, alors l'accès au Ghat Mani Karnika, qui est ce ghat des crémations, hein, c'est là l'endroit où on brûle les morts, à Varanasi, qui est un endroit extrêmement connu pour ça. C'est un endroit très fort, je rêvais d'y tourner. Je savais que c'était très compliqué. L'accès au ghat est interdit aux femmes, qui sont considérées comme impures. Elles ne peuvent pas s'approcher des bûchers. Et puis les caméras ne sont pas autorisées non plus. Et j'ai eu beaucoup de chance, et ça je le raconte dans le livre Le Voyage de la Tresse qui vient de sortir et qui est mon livre Making of, où je raconte comment on a tourné ce film sur les trois continents. Et en particulier, on a lié un contact grâce à l'actrice principale avec un des responsables des crémations là-bas, un intouchable de la dynastie des Dom qui sont dévoués aux crémations depuis des générations. Et lui nous a permis d'accéder très très près des bûchers funéraires et nous a permis de poser notre caméra à quelques mètres seulement des bûchers funéraires. C'était très impressionnant. Je suis ressortie couverte de cendres de la scène avec mon chef opérateur et mes comédiennes. Je crois qu'on a filmé les bûchers comme ils ont très très rarement, voire jamais été filmés auparavant.
Laetitia, un grand merci. Donc on rappelle La Tresse qui sort le 29 novembre. Merci.
Merci à vous.